Merci à vous d'être au dernier courageux d'être là, puisque c'est une des dernières tables rondes de la quasi-dernière journée du festival, puisque la prochaine journée sera consacrée essentiellement aux enfants. Donc, table ronde consacrée à la machine au service du récit, mais d'un récit un peu particulier, puisque là, on va parler principalement de jeux vidéo et de machines multi-support, avec deux très jeunes gens, développeurs de jeux vidéo tous les deux. Donc Rémi Leblanc, tout au bout là-bas, David Birchet-Cotte, qui est son camarade de classe, si j'ai bien compris, parce que vous êtes tous les deux dans une école supérieure d'art et de conception de jeux vidéo, donc qui vont pouvoir nous parler non seulement du type de machine qu'on utilise aujourd'hui, mais j'espère de celle qu'on utilisera très bientôt et des pistes qui sont en cours de développement dans les écoles d'art. Et puis un autre tout jeune homme, mais depuis un peu plus longtemps.
Toujours 20 ans d'âge mental.
Oui. Donc Marc Frachet qui est là en particulier parce qu'on est quasiment au lancement. Je ne sais pas s'il est même déjà sorti ou si c'est une avant-première.
Il y a quelques jours qu'il est sorti, effectivement.
Donc,
un roman transmédia. Mais...
Donc un roman transmédia incarnatiste qui est sorti depuis quelques jours, mais qui, si j'ai bien compris, est quelque chose qui t'occupe depuis que tu as l'âge de ces jeunes gens, sinon un peu plus, qui a mis énormément de temps à mûrir, parce que c'est un objet tout à fait étonnant. On parlait de transmédia, mais ça veut dire, c'est bien sûr un roman, et vous voyez l'objet papier, mais c'est aussi un roman papier qui permet d'accéder à du son avec son smartphone en flashant quelques QC codes, me disais-tu ?
QR
codes. On peut accéder à du son, on peut accéder à du multimédia. Mais ça signifie que pour réaliser cet objet, tu as été obligé aussi de réunir des équipes de musiciens pour faire du son, des acteurs pour lire les passages nécessaires. Et qu'en fait, la construction d'un objet de ce genre s'avère beaucoup plus compliquée, beaucoup plus subtile que celle d'un roman traditionnel. Donc j'espère qu'on pourra discuter aussi de ce projet un peu fou que tu as réussi à mener à bien. On peut peut-être commencer, je suppose que tenter de commencer, parce que parmi le travail périphérique à ce roman qu'a mené Marc, il y a une bande-annonce assez sophistiquée. Si la régie en dispose, je serais assez tenté de commencer par une projection de cette bande-annonce pour vous donner un échantillon, puis ensuite Marc pourra nous présenter un peu plus en détail ce projet.
Incarnatis, de la préhistoire au technofascisme, plongé dans l'histoire secrète de l'humanité, de ses origines au 24e siècle, à travers l'affrontement des maîtres et des démons de l'extérix.
Découvrez des médias complémentaires au cours de votre lecture.
Incarnatis, le pouvoir de la science arcanique. Incarnatis, de la préhistoire.
Que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, sur ce livre, à la fois du point de vue artistique et du point de vue de la réalisation?
Volontiers. Merci déjà de m'accueillir pour présenter ce projet qui, effectivement, comme tu le soulignais, est un vrai projet de vie, hein, puisque les premières idées datent de quand j'avais 17 ans. Et alors, comme je le soulignais, je suis resté assez jeune mentalement, même si j'aligne un peu plus d'années au compteur. Et l'idée est très simple, qui a émergé ces derniers temps, c'est que, en fait, vous avez un livre, donc un livre imprimé traditionnel, mais en flashant des QR codes. Donc, je vais trouver une page pour vous montrer comment ça se présente. Oops. Ainsi, vous allez pouvoir accéder à des médias additionnels. L'idée de ces médias, c'est d'aller prolonger son immersion dans un univers qui s'appelle Incarnatis. Il y a 16 médias en tout, hein, pour vous présenter rapidement l'ouvrage. Il y a des récits audio avec des comédiens qui ont été enregistrés. Vous aurez peut-être reconnu deux voix qui sont dans la bande-annonce, parce que vous avez régulièrement dans le livre la voix française d'Eva Longoria qui vient vous raconter des choses qui sont mises en musique. Vous retrouverez également celle de Morgan Freeman et d'un troisième acteur. Il y a aussi des illustrations qui ont été réalisées par Étienne Leroux, qui est un auteur de bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui a aussi signé les couvertures de l'ouvrage. Il y a des musiques à écouter pendant qu'on est en train de lire, ou pas d'ailleurs, si on le souhaite. Et puis aussi deux objets, deux artefacts. Et ces 16 médias donc, vont permettre d'aller accéder à de l'information additionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bloquants dans la lecture du livre si jamais on n'y a pas accès. Ça reste un livre avec des mots qui racontent une histoire avant tout, et on peut en rester là d'ailleurs, hein. Certains le lisent en restant là. Mais si on le souhaite, on va pouvoir accéder à de l'information additionnelle. Et en ce sens-là, l'outil machine, téléphone portable ou tablette est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il va permettre d'aller prolonger cette immersion dans ce nouvel univers science-fiction fantastique qui, depuis la Terre du futur, va vous plonger dans l'histoire secrète de l'humanité. Là, vous allez découvrir plein de choses, mais que je ne peux pas évoquer. Hein. Je vous invite à lire le pitch avant tout. Et ça va être une façon donc de découvrir d'autres choses, d'autres informations, en plus de la lecture. Donc c'est un mode d'immersion. Et ce projet, donc, pour répondre à l'une de tes questions, est donc quelque chose qui me tient depuis longtemps à cœur, que j'ai commencé donc étant ado. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et à cet âge-là, on a souvent envie de refaire le monde. Ça ne m'a pas quitté. Et donc, j'ai travaillé ça en parallèle à la fois de mes études, que j'ai essayé aussi d'orienter de sorte à acquérir certaines compétences pour pouvoir savoir faire tout ça. J'ai aussi orienté ma vie professionnelle pour acquérir un certain nombre de compétences, notamment dans le domaine du livre, du jeu vidéo, de l'Internet et d'autres secteurs, pour pouvoir aujourd'hui présenter cet ouvrage, qui est le premier volet d'une trilogie, donc une trilogie transmédia, hein, puisqu'aujourd'hui on parle de romans transmédia, dans lequel on va pouvoir pratiquer la lecture augmentée. Et donc ces trois livres, les deux autres sont déjà écrits, sortiront à un an d'intervalle. Celui-ci sort en ce moment au niveau national avec un partenariat un petit peu spécifique, puisque pendant les années de montage de ce projet, on a rencontré le réseau des maisons de la presse, MacPress et d'autres points presse, un gros réseau qui a été totalement emballé par le sujet et qui a souhaité être à l'origine du lancement de ce nouveau type de roman pour eux, dont ils pensent que c'est une des formes de littérature qu'on croisera certainement plus tard. Et donc il sort depuis le 22 octobre dans différents points presse. Et on accompagne ça déjà depuis 3 mois, puisqu'on fait des avant-premières avec une première édition du livre. Et ça fait même un an qu'on fait des salons avec un prototype. Donc on est passé par, si certains connaissent, le Salon Fantastique, les Geek Ferries, les Aventuriels de Ménétrol, et d'autres, le Salon du Livre de Paris aussi, pour présenter au début avec un prototype cette démarche, ce projet. Et on s'est rendu compte d'ailleurs en cours de lecture, de route, que c'est intéressant parce que ça crée beaucoup d'appétence pour la lecture, en fait, notamment auprès des gens qui lisent pas ou peu. Et donc on a des retours de jeunes gens de 12 à 75 ans, parce qu'ils sont aussi restés très jeunes mentalement. Donc un spectre assez large de personnes qui ont pu à la fois soit se mettre à la lecture, et il y a même quelqu'un de 25 ans qui m'a confié la semaine dernière que c'était le premier livre qu'il lisait jusqu'au bout. Alors j'en suis ravi pour lui, mais ça me flatte énormément parce que c'est aussi mon premier livre, hein, donc c'est quelque chose d'assez bien. Et en même temps, à l'opposé, des gens d'une génération un petit peu plus avancée qui, eux, l'ont lu sans forcément aller voir les médias, mais qui sont rentrés dedans parce qu'avec toutes ces années de conception, il y a quand même un petit peu de fond, il y a des valeurs, il y a du sens, de l'humanisme et un univers qui est très riche et construit et dans lequel, derrière, il y a la notion d'uchronie. Donc c'est à la fois une aventure de vie, en même temps qu'une nouvelle aventure dans un nouvel univers, et puis quelque chose dans lequel, y compris dans mon parcours professionnel, la notion de machine est très présente. Alors, machine dans tous les sens du terme, qui ont été évoquées pendant tous ces jours, mais c'est pas que le téléphone portable ou la tablette, ça peut aller plus loin.
Tu as dû réunir une équipe de combien de personnes, typiquement, pour des petites contributions ou à plus long terme, pour mener à bien un projet de cet ordre ?
Alors, aujourd'hui, il y a au moins 10-12 personnes qui sont entrées dedans, mais vous verrez, il y a 4 pages de crédit et des pages de remerciements parce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, parce que je ne suis pas tout seul. On a même créé une structure d'édition spécifique parce que quand on présente un projet comme ça à des éditeurs traditionnels, ça leur fait un peu peur, ça les sort de leur cœur de métier. Ce n'est pas que du papier, il y a d'autres médias, il y a d'autres dimensions à gérer. Et du coup, plutôt que d'essayer de convaincre des gens que ce qu'on fait, c'est bien, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, hein, et puis donc on l'a fait, donc on a créé une structure, et alors dans cette structure, il y a déjà 2 autres associés, donc on est 3 en tout, 4e personne qui est mon épouse aussi, qui nous aide beaucoup sur la communication, ça c'est le cœur du sujet. Mais au-delà de ça, on a un illustrateur, Étienne Leroux, donc, qui a participé aux illustrations et à la création graphique de l'univers. On a aussi 3 acteurs qu'on a réunis, donc vous aurez reconnu donc peut-être la voix française de Morgan Freeman, qui est un acteur qui s'appelle Benoît Alman, qui est quelqu'un d'absolument à la fois charmant humainement, mais en même temps qui a une voix d'une puissance extraordinaire, à tel point qu'il vous lirait le bottin, vous l'écoutez, quoi, tellement il est prenant et captivant. C'est aussi la voix française d'Eva Longoria, entre autres, avec une actrice qui s'appelle Odile Schmitt, qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Et puis un troisième acteur, Stéphane Pouplard, qui fait aussi des doublages dans différents films. Alors, pourquoi des acteurs doublage, pourrait-on me poser comme question ? Parce qu'en fait, tout se passe dans l'audio. C'est pas des vidéos avec des gens qui sont mis en scène, c'est vraiment dans les oreilles. Donc, il fallait d'une part des acteurs qui jouent extrêmement bien, et d'autre part aussi, c'est ce qu'on a souhaité, avoir des voix qui tout de suite posent un niveau d'imaginaire, un niveau de réalisation déjà très fort et très identifié. C'est-à-dire qui véhiculent avec eux quelque chose qui apporte tout de suite une dimension supplémentaire au projet. À ça s'ajoute un ensemble de personnes qui nous ont aidés sur tous les aspects techniques, parce que ça se fait pas tout seul. Il y a un site internet, des médias, sur des aspects aussi parfois de communication, de marketing et de choses comme ça. Donc au moins 10-12 personnes. Et puis aussi, et je m'arrête là, on a fait une campagne de financement participatif il y a 3 ans, parce que tout ça a un coût forcément, hein, et si on le rajoute au coût du livre, c'est conséquent. Et donc, on a plus de 140 personnes qui nous ont suivis, qui ont mis de l'argent dans le projet pour le voir exister. Et donc, ça fait quand même une bonne tripotée de personnes. Et pour clore le sujet sur les gens, on est allé loin dans la réalisation. Donc, les musiques que vous allez trouver sont des vraies musiques. Et sur l'une d'elles, on est même allé enregistrer une chorale. Donc, il y a 120 choristes qui chantent en latin. Donc voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de gens qui se sont mobilisés sur ce projet et l'avenir nous dira ce qu'il en ressort, mais on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas été aidé de cette façon-là et si l'enthousiasme que génère le projet n'avait pas existé en fait.
David, est-ce que cet aspect, j'allais dire multidimensionnel de gestion de projet, de gestion de très grand nombre de compétences très diverses, de personnes très diverses, éventuellement de questions, de problématiques de financement, font partie des éléments, des projets que tu peux être en train de monter ou qu'on t'apprend à monter?
Tout à fait. Y a toute une, dans le jeu vidéo, on va avoir un très grand nombre de disciplines différentes qui doivent toutes travailler ensemble, en plus sur des méthodes qui sont ce qu'on appelle une méthode agile, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler sur le jeu sans savoir ce qu'on cherche, enfin sans savoir complètement ce qu'on va faire. Et du coup, il faut que toutes les disciplines aient une communication impeccable et une gestion de projet très complexe, oui, dans ce genre de discipline. Ouais.
Et ça passe par l'acquisition de quel type de compétences ?
De compétences de social, enfin de savoir, enfin penser à voilà, à toujours expliquer ce qu'on est en train de faire à tout le monde et toujours se renseigner sur ce que font les gens pour pas travailler deux fois sur la même chose ou pour pouvoir travailler sur deux domaines différents qui ensuite vont pas être compatibles après. Après il y a de la gestion de projet, oui évidemment dans le jeu vidéo.
Et on travaille une équipe de développement de jeux vidéo, typiquement c'est combien de personnes ?
Alors ça va dépendre de la taille du studio. Dans un studio triple A type Rockstar, EA Games, Ubisoft, on peut avoir des projets qui ont plus de 400 personnes, 500, GTA 5 c'est encore plus. Et ça va être sur 5 ans par exemple de développement, donc c'est vraiment des énormes productions, l'équivalent de 5 films de blockbuster, enfin c'est des productions énormes. Et d'un autre côté, on peut avoir des jeux beaucoup plus simples. Du côté de la scène indépendante, avec des studios indépendants qui font entre 1 et 20 personnes et qui vont avoir des durées de développement plus courtes et un produit final bien moins imposant, mais tout aussi intéressant, parfois plus même.
Et c'est probablement une question très naïve, mais quelle est la vie d'un développeur de jeux vidéo ? Est-ce que c'est une sorte de mercenaire qui va aller travailler tantôt pour un très grand groupe, tantôt pour une petite structure selon le projet en cours ? Ou est-ce que c'est une vie d'employés pour les triple A dont tu parlais, qui peut rester pendant 30 ans dans la même société?
Alors, pour du triple A, oui, la plupart des gens vont avoir un CDI, j'imagine. Enfin, ils vont être employés là-bas. Sur les studios indés, ça va être ce qu'on appelle du rêve share, c'est-à-dire qu'on va faire le jeu, et une fois qu'il sort, imaginons qu'il fait, je sais pas moi, il fait 100 000 dollars et qu'on est 4, et ben chacun va récupérer 25 000 dollars. C'est pas, il y aura pas le patron qui va tout récupérer pour remettre dans la boîte. Enfin, c'est plutôt, ça dépend du type de projet après. Mais il y a aussi plein de gens qui font du freelance et qui vont de boîte en boîte. Ça dépend aussi du domaine. Si on est développeur, donc programmeur, ou si on est game designer comme nous, ou si on est 3D artiste, concept artiste, si on va être programmeur sur un domaine très particulier, on peut aller de boîte en boîte sur l'optimisation, je ne sais pas. Ça dépend, hein, ça dépend des studios, ça dépend des boîtes. Enfin, dans le domaine, en fait, c'est très spécifique à la boîte. Même le nom des métiers parfois change selon la boîte. Les gens ne font pas la même chose, ça dépend. C'est...
Rémi, tu sembles avoir quelque chose à ajouter ?
Non, c'était juste pour ajouter que c'était surtout les sound designers qui étaient en freelance parce qu'ils travaillent beaucoup moins longtemps que les autres corps de métier sur les jeux vidéo.
Oui.
Donc l'un des modèles, et il me semble que c'est un peu ce qu'a fait Marc aussi, c'est, mis à part ces grandes sociétés où on a des plans à très très long terme, ce sont quasiment des startups, des aventures économiques où les développeurs de jeux vidéo amènent leurs compétences, leur temps, sans doute un peu de leur argent, mais pas forcément énormément au départ, et se paye avec le succès du jeu quand ça fonctionne. Vous êtes des aventuriers, en fait.
Oui, je pense, oui. Oui, enfin, c'est un... oui, la plupart du temps, enfin, dans les studios indépendants, ça va être... Il y aura une sorte de côté entrepreneuriat start-up qui sera très très fort, vu que développer un jeu, ça prend du temps. C'est très difficile.
Ça prend du temps. Typiquement, quel est l'ordre de grandeur du développement d'un jeu? On compte en
mois, encore une fois, ça dépend de... Ça se compte plus en mois, en année. Hein. Enfin, je sais pas, un GTA 5, c'est 5 ans de développement ou même plus. Je sais plus si tu sais le... C'est au moins 5 ans. Et un jeu indépendant, pareil, ça peut parfois aussi durer 5 ans. Ce qui est énorme, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est censé manger entre-temps pendant 5 ans. Enfin, c'est mieux.
Enfin, la vieille génération avait besoin de manger, je ne sais pas si c'est encore vrai.
C'est encore vrai, malheureusement. Et du coup, c'est très difficile comme domaine. Enfin, comme économiquement, c'est compliqué.
Ouais, je voudrais juste revenir deux secondes sur l'idée de compétence, parce que... Bon, moi, j'ai un chemin un peu particulier, mais donc dès l'âge de 17 ans, en fait, je me suis mis en tête d'arriver à vivre de ma création. Et j'ai toujours pas réussi. Hein. Mais heureusement, le chemin est aussi important que la destination. Donc déjà, j'y prends plaisir, ce qui est un premier point. Sinon, autant aller faire autre chose. Mais en quelques années, je me suis pas mal questionné. J'ai rencontré pas mal de gens, de créatifs, créateurs, artistes dans plein de domaines. Et je menais une sorte de réflexion que j'ai essayé un peu de théoriser. Et j'ai défini ce que j'ai appelé le génie artistique, en fait. Et l'idée, c'est que je suis parti du point de vue, et c'est ce qui m'a permis aussi d'orienter à moi mon propre parcours professionnel, qu'il fallait que j'arrive à rassembler, alors pas forcément à moi tout seul, mais au moins à les comprendre, trois grands volets de compétences. Des compétences d'ordre créatif et artistique, c'est-à-dire vraiment l'expression artistique sur différents supports, sachant qu'on n'écrit pas un livre de la même façon qu'on fait un scénario de film ou de jeu ou autre chose. Donc chaque chose a ses spécificités, donc il convient d'essayer de comprendre comment ça marche, comment ça se fait. Ça, c'est un premier volet de compétences, y compris pour la musique. À la base, j'ai commencé en musique. Il y a un deuxième volet de compétences qui m'a semblé très intéressant et qui rejoint ce dont on parle dans cette table ronde. C'est tout ce qui est outil d'aide à la création assisté par ordinateur. Et ça, c'est un champ extrêmement large. C'est les outils technologiques. C'est souvent un ordinateur dédié. Après, soit c'est à du montage, à du jeu, à tout ce qu'on veut, ou de la musique. Et sans ces outils, qui sont au service, pour le coup, pas forcément tout de suite du récit, mais de celui qui crée le récit, on n'en serait probablement pas là. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans, les outils n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, le champ des possibles est beaucoup plus grand, mais il reste quand même l'idée d'aller acquérir un certain nombre de compétences d'ordre technologique, on va dire, ou d'utilisation de la technologie pour sortir ce qu'on a envie de sortir. Mais à la base, ça sort quand même de nous, ça sort pas de la machine. La machine n'est qu'un outil pour donner vie à ça. Et puis, il y a un troisième volet de compétences qui rejoint aussi ce qu'on disait, c'est la gestion de projet, en fait, la gestion de projet complexe, parce que pour le coup, c'est pas juste si on va aller faire ses courses, c'est un projet. On part d'un état A qui est le frigo est vide, objectif état B, remplir le frigo. Entre temps, on met des moyens en œuvre, à savoir la voiture, les sous, etc., pour aller faire les courses. Mais pour ce qui est de développer soit un jeu vidéo, soit quelque chose de cette nature-là, les choses à mettre en œuvre sont extrêmement complexes. Je dis pas compliquées, c'est-à-dire c'est complexe, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et faut savoir le gérer. Et donc, ces trois volets de compétences, l'expression et la création artistique, la maîtrise autant que possible de certains outils d'aide à la création assistée par ordinateur et l'ingénierie de projet au sens large, qu'on pourrait appeler la production, hein, sont pour moi trois volets très importants, peut-être probablement nécessaires mais non suffisants pour arriver à développer quelque chose, une réalisation où on va intégrer un certain nombre de choses. Et donc, pour ma part, j'ai appelé ça le génie artistique. Et à mon avis, ça pourrait être intéressant pour peut-être de regarder ça sous cet angle-là pour pas mal de gens, parce que ça ouvre certains horizons, y compris aux porteurs de projets, qui parfois peuvent se retrouver bloqués pour des raisons qu'ils n'identifient peut-être pas. C'est comme en musique, hein. Des fois, on fait une musique, enfin pour ceux qui sont musiciens, et quelque chose qui ne tourne pas, ça se fait pas, ça sonne pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est quand on va étudier un petit peu l'harmonie et certaines choses qu'on va se rendre compte que, ah oui, mais tiens, là j'ai une voix qui fait ça alors qu'il vaudrait mieux qu'elle descende ou qu'elle monte et tout. Et tout de suite, ça donne une autre dimension. Donc il y a vraiment un panel de compétences à prendre en compte si on veut avancer dans une réalisation complexe.
Marc évoquait sa trajectoire et l'importance de sa trajectoire personnelle. Qu'est-ce qui peut amener un jeune aujourd'hui à vouloir devenir développeur de jeux vidéo? David semblait dire que c'était pas l'appât du gain parce que ça semble pas acquis. Rémi, comment tu fais? Tu étais toi-même un gamer avant de te lancer là-dedans?
Bah, si c'est pas l'appât du gain, c'est plutôt la passion. Et sinon, je vois pas ce qui motiverait quelqu'un à aller sur cette voie.
Je suis entièrement d'accord. S'il n'y a pas la passion, c'est très difficile.
Donc vous êtes tous les deux avant tout des passionnés de jeux vidéo?
Oui. Que dire d'autre?
Et quel est le jeu vidéo idéal? Quel est le Graal qui vous a amené à engager plusieurs années de votre vie dans un projet de ce genre?
Non, c'est plutôt offrir des expériences intéressantes aux gens. Il n'y a pas de jeu type en fait en tête, quoi. Tout dépend de la cible qu'on veut atteindre, ce qu'on veut lui transmettre.
Est-ce que les techniques que vous apprenez aujourd'hui, on parlait de techniques narratives en particulier, mais est-ce que les techniques de conception de jeux qui sont sur le marché, donc j'imagine qu'on apprend dans les écoles d'art, les écoles de conception de jeux aujourd'hui, sont appelées, d'abord, est-ce qu'elles sont très différentes des techniques narratives habituelles en littérature, et est-ce qu'elles sont appelées à durer? Est-ce que vous pensez que les compétences que vous avez aujourd'hui seront encore utiles dans 5 ans, dans 10 ans, ou est-ce que les révolutions sont tellement rapides dans ce domaine que tout change et qu'il faut savoir s'adapter en permanence?
Les compétences en elles-mêmes vont évoluer avec l'évolution des technologies, ça c'est sûr. On ne fait pas un jeu de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou dans 10 ans. Après, au niveau du récit, parce que c'est la table ronde sur le récit, on a différentes techniques d'écriture qui, elles, restent, mais vont aussi évoluer. Je pense que Rémi a quel truc sur les différentes façons de faire du récit.
Oui, enfin, il y a différentes manières de faire, mais il n'y a pas de formule magique qu'on nous enseigne en école et qu'on applique, quoi. Le jeu vidéo, ça reste quand même un domaine assez créatif ou...
Et assez nouveau, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment en fait comment on doit faire.
Je crois que les écrivains traditionnels ne savent pas non plus. S'il y avait une recette pour faire un best-seller, tous les écrivains seraient riches.
Probablement. Mais je crois qu'avant tout, c'est l'envie de raconter une histoire, d'emmener que ce soit un joueur, un lecteur ou qui que ce soit vers quelque chose, de lui faire passer peut-être des émotions, des sentiments, lui faire vivre une aventure. Et je pense que dans le fond, c'est ça. Le support qu'on utilise après, soit il est interactif comme dans du jeu vidéo, soit il est linéaire comme dans un bouquin. Et voilà, il est différent, mais à la base, il y a probablement l'envie de raconter une histoire.
Oui, mais alors là où c'est différent avec le jeu vidéo, c'est que certes, on peut raconter une histoire directement. Je sais pas, on prend BioShock, on raconte une histoire, c'est linéaire, même si c'est interactif. Là où c'est différent au niveau du jeu vidéo, là où c'est la particularité, c'est que vu qu'il y a cette interaction du joueur, il y a aussi le choix du joueur, et du coup, on va pouvoir faire des récits soit à branche, soit même laisser le joueur créer son propre récit. Et ça, c'est spécifique aux jeux vidéo.
Quoique, tu as le livre dont tu es le héros et qui reprend ce principe.
Aussi. Mais oui, tout à fait. Mais il y a quand même des limites au livre dont vous êtes le héros.
Et ce qui pose, ce qui m'a beaucoup questionné pendant un certain temps, effectivement, c'est l'idée de branche. Parce que, effectivement, on peut dire on crée des récits avec des branches différentes, mais On reste là, dans ce cas-là, dans un univers fini, parce que le nombre de branches dépend du choix qui est suivi par le lecteur, donc c'est une arborescence. Après, il y a l'idée de comment... C'est une des grandes questions que je me pose, mais moi, je n'ai pas trouvé la réponse. C'est comment, notamment dans le domaine du jeu vidéo, on va pouvoir créer une histoire qui puisse peut-être se renouveler ou que le joueur va renouveler, alors, en fait.
Justement, oui, c'est très intéressant comme question. Parce que sur le, donc, on peut faire évidemment des scénarios à branches. Donc, on aura tous... Enfin, tous... Une grande majorité, enfin la plupart des gens, genre, on peut imaginer un groupe de joueurs qui vont y jouer chacun dans leur coin et ensuite se retrouver le lendemain pour en discuter. Ils auront chacun leur histoire qu'ils ont eue. Alors moi j'ai choisi de sauver tel personnage plutôt que celui-là. Moi j'ai décidé de d'arroser la plante et moi je l'ai pas fait parce que je savais pas qu'on pouvait le faire, etc. Et ça aura des conséquences ensuite sur le jeu. Et donc chacun aura son histoire. Mais avec des jeux comme, je prends un exemple un peu extrême, mais Minecraft. Il n'y a pas de scénarisation directe dans le jeu, il n'y a pas d'histoire à Minecraft, mais pourtant il y a quand même une narration. Deux personnes qui parlent de Minecraft vont pouvoir raconter ce qui leur est arrivé en tant que joueur, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit story driven, c'est-à-dire que le jeu soit que la narration soit faite par une histoire, c'est player driven, c'est-à-dire que c'est fait par le joueur. Dans un joueur de Minecraft, il va pouvoir dire « Ah bah moi hier, j'ai construit ma maison, et ensuite j'ai fait une mine, et quand je suis allé dans ma mine, bah, ah, il y avait un creeper, il a explosé, j'ai perdu toutes mes ressources, en plus j'avais ma super pioche en diamant, elle est tombée dans la lave, et ça c'est une histoire, on est d'accord, c'est une histoire qui arrive au joueur, mais c'est une histoire qui est unique, parce que c'est le joueur qui a créé cette histoire, c'est une histoire qui lui est arrivée dans le monde, et c'est pas une histoire qui a été prévue par les développeurs. » Donc ça je pense que c'est le truc que Minecraft a aussi apporté, même si c'était déjà dans d'autres types de jeux un peu procéduraux comme ça. Et c'est quelque chose qu'il va falloir creuser, je pense, pour le futur de la narration dans le jeu.
Oui, tout à fait. Et effectivement, moi, dans ce cadre-là, moi, j'appellerais ça cette hypothèse type Minecraft, pour moi, c'est des cadres à histoire. C'est-à-dire que c'est un environnement de jeu, enfin de vie, dans lequel on va poser certaines règles, certains champs des possibles, et après on les explore.
C'est un peu le même genre de truc qui se passe avec le jeu de rôle papier, où le maître du jeu va jouer l'univers, entre guillemets. On va pouvoir poser des questions. Bon, est-ce que je peux ouvrir cette porte? Et puis l'univers va nous dire, bon, non, cette porte, elle est fermée à clé, ou elle est ouverte, ou je ne sais quoi. Et on va pouvoir poser n'importe quelle question. Et en fait, le maître du jeu va jouer les lois de l'univers pour qu'on puisse... faire ce qu'on veut. Et dans Minecraft, c'est un peu ça. On a les lois de l'univers, les creepers explosent, les cochons sont attirés par le blé ou je ne sais quoi. Tu as toutes les lois. Et c'est parce que ces lois sont bien foutues que des histoires émergentes peuvent apparaître.
Complètement. D'ailleurs, moi, pour mon expérience personnelle, j'ai découvert le jeu de rôle, j'avais 17 ans. Et ça m'a bluffé d'une certaine façon parce que j'ai découvert qu'on pouvait modéliser un monde, on va dire un univers, et après le faire vivre avec des histoires et des personnages. Exactement. Et ça a été une vraie révélation. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a encouragé justement à commencer par créer l'univers pour être capable après de raconter des histoires dedans.
Quel est le rôle ou l'importance de la technologie dans cette affaire? Parce que vous semblez mettre pratiquement sur le même plan Donjons et Dragons qui se joue avec quelques dés un peu particuliers, mais avec des dés pas beaucoup plus, avec, j'imagine, des systèmes qui utilisent les derniers ordinateurs de jeu les plus puissants. Est-ce qu'il y a véritablement une continuité entre les deux? Est-ce que la prochaine génération de machines se contentera de pouvoir faire la même chose, simplement plus profondément et mieux? Ou est-ce qu'il y a une solution de continuité avec chaque avancée technologique?
Je pense que il y a une amélioration de la complexité du jeu qui est possible via l'amélioration de la puissance des ordinateurs. Et cette amélioration de la complexité, cette augmentation de la complexité, permet de nouvelles mécaniques de jeu, donc permet de rajouter de nouvelles mécaniques de jeu. Mais après, c'est une continuité. Il y a une amélioration. C'est quoi la question?
Est-ce qu'il y a des technologies disruptives? Par exemple, on parle beaucoup de réalité virtuelle. Est-ce que le fait de plonger directement le joueur
un environnement... Là, clairement, on a une nouvelle technologie, un nouveau device qui permettra de nouvelles façons de raconter des histoires ou de jouer à des jeux. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. On fait des tests, on invente des nouveaux jeux, on fait des trucs. Au début, ce sera parfois des jeux tout pourris, etc., parce qu'on ne saura pas comment ça marche. Et d'ici quelques années, on aura une grammaire de comment raconter des histoires en VR et faire des jeux en VR. Et plus tard, on aura encore d'autres nouveautés qui permettront de nouveaux types de jeux. Ouais.
Et qui joue à ces jeux tout pourris ? Est-ce que ce sont des... Est-ce que les passionnés de jeux attendent que la technologie soit mûre et que les jeux soient sophistiqués, ou est-ce qu'ils foncent vers la dernière technologie pour le plaisir de la tester, même si c'est tout pourri ?
Alors c'est pas tout, enfin c'est-à-dire que quand je dis c'est tout pourri, c'est dans le sens on sait pas encore ce qu'on peut faire de manière totale. Ça veut pas dire que le jeu sera mauvais. On pourra faire des, là pour l'instant il y a des jeux très bons sur en VR. Mais sûrement qu'ils n'utilisent pas tout ce qui est possible de faire en VR parce qu'on ne le sait pas encore ce qui est possible. Là, on tente des choses, on fait tiens, est-ce que c'est possible de faire un jeu avec la manette ? On peut faire une épée, ok, mais en même temps, on peut passer l'épée à travers parce qu'il n'y a aucun moyen de bloquer le muscle du joueur. Des choses comme ça. Donc, on teste des choses. Il y en a d'autres qui se disent ouais, mais si je bouge la tête, est-ce que je peux viser des menus ? Est-ce que c'est mieux de viser les menus avec la tête ? Ou est-ce que c'est mieux de viser avec une manette ? On teste des trucs et petit à petit, on fera des jeux de plus en plus intéressants.
Moi, je pense que la notion d'usage peut vraiment apporter beaucoup. Si je fais un parallèle, par exemple, avec les SMS. Les SMS, à la base, c'est des messages techniques que s'envoyaient les techniciens. Et le public s'en est emparé et on a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Les QR codes, j'ai rien inventé. Simplement, il y a la notion d'innovation d'usage, c'est-à-dire qu'on s'en sert différemment dans un objectif précis. Je pense qu'il en est exactement de la même chose, du même aspect par rapport à la réalité virtuelle, l'immersion totale ou autre. C'est-à-dire qu'on a ce champ des possibles qui est là. Maintenant, la question, c'est comment on va l'utiliser, quelle valeur ajoutée ça va avoir. Parce que si on reste au stade du gadget ou de la démonstration technologique, bon, c'est sympa, mais c'est très limité. Quoi.
Oui, et puis en plus, la technologie va mourir si personne ne fait de trucs intéressants dessus. Parce que les gens ne vont pas être intéressés par une technologie nouvelle si elle apporte rien de plus. Donc il faut absolument innover.
Est-ce que ça veut dire que en tant que jeune développeur des jeux du futur, vous passez beaucoup de temps à explorer ces nouveaux outils ? On parlait de réalité virtuelle, mais d'une façon générale, les technologies à venir sont-elles au centre de vos préoccupations ? Est-ce que vous avez une expérience qui échappe
là,
au commun des mortels ?
Au niveau de l'industrie du jeu vidéo, il y a une grande question en ce moment, c'est sur la VR. Tout le monde parle de la VR. Et en plus, j'ai l'impression quand même... Il y a quand même deux camps. Il y a pas vraiment de. Il y a des gens qui disent oui, c'est le futur, et d'autres qui disent non, je suis sceptique. Il n'y a pas vraiment de gens qui disent peut-être, mais peut-être pas en fait. Enfin, c'est assez binaire. Mais du coup, c'est une vraie question qui se pose. Mais je sais que ça se pose aussi dans le cinéma, ça se pose aussi dans tous les domaines de la création numérique, où il y a ce nouveau device, oui. Donc du coup, évidemment, en tant que game designer, on est obligé de se renseigner et de réfléchir et de tester, et, évidemment. Ouais, Surtout que c'est un nouveau domaine, en plus il y a un marché à prendre qui n'est pas encore, il n'est pas encore bondé comme marché, donc c'est le moment d'y réfléchir. Ouais.
Mais d'autant plus que se pose la question de l'équipement de la personne qui va utiliser ça. C'est-à-dire que oui, on peut imaginer probablement des tas de choses avec des casques en réalité virtuelle et tout, mais il faut que ce soit doublé d'évolutions technologiques et économiques pour permettre au plus grand nombre de s'en équiper. Parce que sinon, on risque d'arriver à quelque chose d'élitiste.
Oui, au niveau de la VR, pour l'instant, on a en gros deux grosses méthodes. On a les gros casques à plus de 600 euros, enfin 400 pour le PS, pour celui de la PlayStation, 600 pour l'Oculus, 900 et plus pour le Vive, qui est disponible là-bas, on peut tester si vous avez... envie de faire la queue. On a de l'autre côté, donc ça c'est pour les gamers et puis pour les professionnels qui veulent faire de l'architecture, des choses comme ça, donc ils peuvent s'équiper en entreprise avec ce genre de casque. Mais de l'autre côté, là, on a Google qui vient de sortir un casque qui s'appelle le Daydream, qui est un casque en tissu, qui est donc plus apporté comme un vêtement, entre guillemets, où on met son téléphone dedans, donc téléphone qu'on a déjà tous, même si ça va utiliser les téléphones... futur, parce que maintenant il faut des super écrans, il faut des bons gyroscopes, etc. pour la VR, donc c'est pour les téléphones du prochain téléphone. Mais ce truc là il coûte 80 euros, il y aura sûrement des clones à 20 euros, tout le monde pourra en être équipé. Quand tu achèteras un téléphone dans un magasin, on te fournira un casque comme ça avec. Ce sera de la moins bonne qualité que les casques à 900 euros évidemment, mais ce sera une bonne introduction et ce sera plus accessible. Et petit à petit, les deux vont converger, vu que les téléphones deviennent de plus en plus puissants. Et les téléphones d'aujourd'hui sont aussi puissants que les ordinateurs haut de gamme d'il y a 10 ans, enfin de 5 ans. Et du coup, on peut très bien imaginer que ce qu'on a aujourd'hui sur les casques à 900 euros, on l'aura sur le téléphone dans 4-5 ans, même pas.
Complètement, mais même moi, au niveau du roman, pour les tomes 2 et 3, on va aller utiliser des systèmes comme ça, justement, mais on attend effectivement que ça se démocratise, que des choses sortent, pour être sûr que le lecteur puisse en profiter, tout simplement.
Oui, parce que là, on ne sait pas si les gens vont marcher ou pas, si ça va marcher.
En tout cas, l'industrie pousse dans ce sens-là.
Oui, en tout cas, oui, l'industrie, toute l'industrie de l'AVR pousse là-dedans. Tous les constructeurs de téléphones sont en train de faire leurs propres petits casques. Les gros studios sont en train de penser à faire des jeux VR. Parce qu'évidemment, c'est assez... Pourquoi on ne voit pas de jeux VR, vu que l'AVR est sorti? Pourquoi on ne voit que des jeux indépendants et pas des gros jeux Ubisoft sur VR? Parce que, comme on ne sait pas combien il y a de joueurs qui vont en acheter, et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, et qu'on ne sait pas si ça va marcher, un gros studio, il n'a pas envie de dépenser 20 millions de dollars dans un projet qui ne va peut-être pas marcher. Donc ouais, il faut pousser pour que les gens, que l'industrie s'y mette et aussi que les gens l'utilisent.
Après, les gros studios, ils ont des équipes qui travaillent dessus. Hein. C'est pour pas être en retard au niveau R&D si ça marche.
Oui, voilà. Mais ils vont. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses sorties en tout cas. Il y a eu quelques. Il y a eu Batman en VR aussi, là qui est sorti. Donc ça, c'est un vrai jeu. Mais la plupart des jeux, pour l'instant, c'est que des démos. Hein, en gros.
Oui, c'est des jeux très simples.
Il n'y a pas de gros jeux de 35 heures. Sur...
Juste, je rebondis parce que, à mon avis, tu as cité un mot qui est fondamental, c'est la notion de recherche et développement. Et malheureusement, en France, quand on regarde un peu les entreprises dans le monde entier, on s'aperçoit que les pays qui arrivent à avancer d'un point de vue économique sont souvent ceux dont les entreprises consacrent 3, 4, 5, 6 points de leur chiffre d'affaires à faire de la R&D. En se disant qu'ils vont explorer des choses qui peut-être ne fonctionneront pas, et ça fait partie du job, mais que peut-être ils vont trouver des choses qui vont fonctionner. Et en France, malheureusement, on est moins dans cet état d'esprit. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais enfin le ratio moyen du chiffre d'affaires consacré à la R&D est trop faible pour avoir cette prise de risque qui peut permettre d'espérer trouver des choses nouvelles. Donc ça, c'est un vrai, vrai problème, probablement, mais sur lequel il y a des solutions.
Rémi, est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur sur l'importance économique de ce marché? C'est des millions d'euros, des dizaines de millions, des centaines de millions?
Ah, pour l'instant, je pense que c'est très très petit hein, le chiffre d'affaires que génère la VR.
Et pour le jeu traditionnel, enfin pour le jeu vidéo d'une façon plus générale?
Le jeu vidéo de manière générale. Oui. Bah là, par exemple, il y a les chiffres de Steam. Steam, c'est la plateforme, on va dire, la plus utilisée sur PC pour télécharger ces jeux, légalement. Et ça, c'est 3 milliards de c'est un marché de 3 milliards de dollars. Et avec 1 milliard pour les jeux indés. Ce qui montre aussi que le jeu indépendant commence à avoir une vraie place au sein de l'industrie.
C'est-à-dire oui. Beaucoup plus que le budget de la littérature. Ça se compare comment au cinéma, par exemple ?
Au niveau du budget, enfin au niveau du chiffre d'affaires, je sais pas.
Le jeu vidéo est la première industrie de divertissement devant le cinéma maintenant depuis quelques années.
C'est voilà.
Ok.
On dirait que vous avez fait le bon choix. Je suis tenté de donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos présidents?
Bonjour. J'aurais deux questions différentes. Une première concernant la réalité virtuelle. Est-ce que, comme il y a eu VHS, Betamax, ensuite Blu-ray, etc., est-ce qu'il y a deux technologies différentes ou distinctes, ou plusieurs, parmi les vrais gros casques à plus de 900 euros, pas le petit truc en tissu de Google? Ça, c'est la question qui était pour vous deux. Et puis, ma deuxième question qui était concernant les refus des éditeurs pour votre ouvrage. Est-ce que les réponses étaient vraiment, c'est un super projet, mais désolé, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale? Essayer ailleurs, mais vous sentiez qu'il y avait un sincère intérêt, ou est-ce que c'était plutôt c'est un peu farfelu, je vois pas ce que vous allez faire avec ça, on comprend même pas l'intérêt, enfin ouais, voilà. Quelle était la source de leur refus?
Je vous laisse répondre déjà.
Donc du coup, est-ce qu'il y a deux si je répète la question, est-ce qu'il y a deux technologies distinctes? Ouais. Alors non, les casques sont à peu près d'accord. Enfin, les casques pour les téléphones. Là, ils sont en train de se mettre d'accord avec Google pour leur spécificité qu'on appelle Daydream. Du coup, tous les casques vont avoir le même fonctionnement et la même manette, etc., pour que tous les jeux soient compatibles, toutes les applications. Ça, c'est bien. Enfin, c'est intéressant que tout le monde se mette d'accord pour qu'on ait plus facilement... Quand on fait un jeu sur Daydream, eh ben, il fonctionne sur tous les téléphones et tous les casques. Et pas... sinon, c'est n'importe quoi. Et au niveau des casques haut de gamme, Là, le truc qu'il y a eu, c'est que le premier casque, il était en mode fixe. On s'assoit sur une chaise et on peut tourner la tête. Maintenant, enfin, l'autre casque qui est apparu un petit peu après, le Vive, qui est disponible là-bas, lui a des petites caméras dans la salle pour pouvoir traquer la position du joueur debout, assis, accroupi, allongé par terre, on s'en fiche, dans les 15 mètres, quoi, carré. Et du coup, ça, l'autre Oculus a rajouté une sorte de petite caméra qui permet de se déplacer comme ça, de se pencher un peu, mais c'est, donc c'est, on a un petit peu de mouvement, mais c'est pas dans toute la pièce. Et c'est pas grave, parce que c'est pas forcément le même marché. C'est-à-dire qu'il y en a un plus pour la visualisation, pour regarder pour faire des musées virtuels, pour des jeux en cockpit, etc. Et un autre pour des applications où il faut se déplacer. Même si je pense que les prochaines générations de casques se mettront d'accord pour avoir le déplacement. Je pense. Surtout que la solution utilisée pour le tracking est entre guillemets, enfin, elle n'est pas open source, mais en tout cas, les API sont disponibles pour les développeurs. C'est-à-dire que on peut utiliser la technologie de tracking dans l'espace de manière gratuite et facile d'utilisation grâce à ceux qui l'ont développé, pour que tous les développeurs puissent le faire sans avoir besoin de mettre des millions dedans. Donc, ça, c'est bien pratique. Après, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui vont peut-être merger avec? Là, on peut penser à l'augmented reality, tout ce qui était Pokémon Go par exemple, ou les Google Glass ou l'HoloLens. Tout ça, on peut imaginer que dans quelques années, là il faut encore attendre un peu, hein, mais dans quelques années on pourrait mixer les deux, avoir en fait des Google Glass qui soient si puissantes au niveau de l'affichage que ça peut devenir de la réalité virtuelle. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, on aura les deux.
Et quant aux réactions des éditeurs dans le domaine de la littérature, c'est assez étonnant en fait, hein, parce que bon, déjà quand même le domaine de la littérature, c'est un domaine où l'économie est extrêmement tendue, parce que par ouvrage il reste quelques euros pour l'éditeur, et avec ça il faut payer les frais de structure, la promo, etc. Donc déjà c'est difficile. Donc quand on dit à un éditeur vous allez dépenser 15 ou 20 000 euros de plus à la base pour mettre des médias, bon déjà ils sont pas chauds. Ça, c'est le premier truc. Bon, ça peut se comprendre, mais en même temps, ça rejoint l'idée de prise de risque et de R&D dont je parlais, hein. À un moment donné, si on se donne les moyens, on y va, puis voilà. Mais en même temps, deux retours précis, tiens, qui sont un peu rigolos dans leur genre. Suite au salon du livre de Paris, où on avait présenté un prototype du projet, j'ai eu l'occasion de rencontrer le propriétaire du troisième plus grand groupe de médias français. Je ne le nommerai pas par respect pour eux. Je lui ai présenté le truc et tout, il a trouvé ça super, il m'a donné la carte du directeur général du groupe et tout, que j'ai appelé. On a discuté 20 minutes ensemble. Et puis la personne me dit, pour moi un livre c'est un livre. Si on veut des images, on va avoir une BD. Si on veut que ça bouge, on va au cinéma. Si on veut de l'interactivité, on va faire du jeu vidéo. Bon, bah, déjà j'ai trouvé ça assez étonnant du point de vue de la réflexion, sachant que c'est quand même quelqu'un qui dirige un monstre, hein, on va dire. Donc voilà, il me dit, moi je préfère avoir des gens spécialisés dans leur secteur, mais il a quand même éprouvé le besoin de rajouter qui se parle. Donc effectivement, c'est quand même pas mal si on veut faire des choses ensemble. Donc voilà, là, ça sert à rien d'aller chercher plus loin, parce qu'on voit que l'état d'esprit n'est pas du tout, je pense, dans un état d'esprit du futur. Après, à côté de ça, une autre structure d'édition, une très grosse, que je ne citerai pas non plus, et où le projet est arrivé par le haut, à travers la directrice générale de tout ce qui est éditorial, qu'il a passé à son directeur de collection science-fiction fantastique, qui a lu le texte, avec qui on a beaucoup discuté du projet, et il était emballé à un plus haut point. Mais vraiment, hein, il m'a fait des retours dithyrambiques sur le texte, c'est un page-turner, machin, etc. Et puis après, ils se sont vus, au niveau du comité éditorial, et puis des représentants des commerciaux et tout ça. Et en fait, ils en sont arrivés à la conclusion que déjà, c'était pas tout à fait dans leur lignée éditoriale. Bon, ça peut se comprendre, même si derrière, il faut aussi peut-être savoir ouvrir un peu les choses. Mais ce qui les a dérangés, c'est que y a des nouveaux médias, des choses intégrées dedans. On sait pas gérer, ça nous fait peur. Et puis, on a aussi derrière ce projet, il y a d'autres développements qui verront le jour, dont un qui sera une grande chasse au trésor, qui se matérialisera par un beau livre. Donc, il m'a dit, on sait pas faire de beaux livres. Et donc, il a été à la fois dithyrambique sur le texte et en même temps, il était désolé de ne pas pouvoir aller vers le projet. Alors, pour la petite histoire, je lui dis, mais vous ne dites pas tout ça pour me faire plaisir. Il me dit, non. Je lui dis, vous pouvez me l'écrire. Oui. Et donc, il m'a envoyé un mail, mais top. Hein, un mail de refus que je joins au dossier, tellement il est bien, en fait, hein, donc, quand je présente le projet. Et donc, ça montre la difficulté qu'il y a à mobiliser des gens, à mobiliser des moyens. Et d'où l'idée de dire à un moment donné, soit on continue d'aller chercher des gens en essayant de les convaincre que ce qu'on fait est bien, soit à un moment donné on y va, et c'est l'idée du studio indépendant. Et d'ailleurs, on a une application Incarnatis qui est développée. Là, elle est disponible sous iOS où il y a les médias. On accède aux artefacts, on les visualise en réalité augmentée. La version Android va arriver bientôt. Et c'est un studio de jeu indépendant qu'on a croisé dans un salon de jeu qu'on a fait en région parisienne. Et je pense qu'il n'y avait qu'avec des gens comme ça qu'on pouvait avancer. Parce qu'il y a cet état d'esprit pionnier, l'envie d'y aller, d'aller explorer des nouveaux territoires.
Merci.
Bonsoir. Concernant la création de jeux vidéo, donc ça implique beaucoup de compétences, le son, l'image, le scénario, etc. Et je voulais savoir si dans vos écoles et vous-même dans vos choix de carrière, si on vous orientait vraiment vers des spécialités ou vous restez quand même assez polyvalent, vous êtes quand même capable de passer d'une compétence à une autre.
On est formé pour être polyvalent. Après, au cours de notre carrière, plus le studio dans lequel on va être gros et plus on va finir spécialisé en fait. Voilà, c'est...
Après, il y a quand même une base entre les distinctions pour la formation entre les programmeurs, les artistes, les game designers, les sound designers. Ça, déjà de base, on va pas pouvoir faire tout. Mais même quand on est artiste, après une fois en studio, on va pouvoir faire de la 3D, on va pouvoir faire de la 2D, on va pouvoir faire du concept artiste, devenir concept artiste, faire de la texture, faire de les lumières. Donc il y a encore plein de possibilités. Et après, si on se spécialise encore plus, on va faire les lumières, on va faire concept artist que pour les personnages, que pour les décors, environment artist et compagnie. Donc il y a vraiment de la spécialisation de plus en plus poussée. Mais il y a quand même une spécialisation à la base entre les artistes, les programmeurs, les game designers. Même s'il y a des gens qui en font plusieurs et qui sont très bons aussi. Ça arrive. C'est très énervant, mais ça arrive.
Ça, c'était au départ, où tout le monde faisait tout, en fait.
C'est vrai. Oui, à l'époque... Voilà, c'est vrai que ça s'est industrialisé et donc du coup forcément il y a de la spécialisation, mais au début quand les jeux se faisaient à 4, tout le monde faisait un peu tout, hein, se posait pas la question.
Et toutes ces compétences sont fournies par la même école? On peut se former à toutes les spécialités dans les mêmes écoles ou il y a déjà un très grand nombre d'écoles différentes pour chaque sous-spécialité?
En fait, dans notre école, on a toutes les spécialités qui sont formées en même temps. Quand je parle de spécialité, je parle de programmeur, développeur, artiste et designer. Et du coup ça nous permet de faire des projets et du coup on forme des équipes entre les différents corps et,
C'est-à-dire qu'il y a une classe pour chaque il y a plusieurs cursus et il y a une classe pour chaque partie de la production et après on fait des projets ensemble. Mais est-ce que les écoles, après il y a d'autres écoles où on fait juste jeux vidéo et les gens après dans la formation se spécialisent entre artistes, programmeurs, etc. Mais ça dépend des écoles, ça dépend des trucs. Il y a des gens qui ne font même pas d'école et qui rentrent quand même dans l'industrie. Ça dépend de plein de choses.
D'autres questions? Désolé, je vois mal la salle.
Oui, oui, bonjour. J'aurais une question pratique au sujet du livre. Le fait d'utiliser des QR codes, des choses comme ça, ça coupe la lecture. Est-ce que ça a une influence sur la façon d'écrire le livre, je ne sais pas comment vous demandez ça, de la façon de le présenter, la façon de l'écrire, la façon dont il est découpé.
Oui, je pense comprendre votre question. Il y a probablement plusieurs réponses à ça. Déjà, c'est un choix. Moi, j'ai essayé de faire un livre pensé comme un film, avec un scénario qui avance bien, une histoire qui bouge. Donc j'ai essayé d'éviter des longues pages de description où pendant 20 pages, on va vous expliquer telle ou telle civilisation, parce que j'ai pensé que ça cassait le rythme de l'histoire. Du coup, je me suis dit, comment je vais emmener l'information additionnelle, l'information supplémentaire qui va permettre de mieux s'immerger? Plutôt que d'avoir 20 pages de texte qui vont peut-être casser le rythme de l'histoire, pendant 3-4 minutes, vous avez une voix qui vient vous raconter des choses et c'est mis en musique. Donc, oui, ça nous échappe du texte, ça nous sort du texte, mais de manière très simple. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les QR codes. Pour la petite histoire, c'est un projet qui a un certain historique, vous l'aurez compris. Et en 2010, je me suis dit que j'allais réadapter tout ça dans des livres. Pourquoi des livres? Parce que des livres, c'est papier, crayon et du cerveau et du temps. Donc ça, à la base, c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est une question après de volonté, de se donner déjà les moyens de le faire. Et quand j'ai commencé à faire ça, je ne savais pas encore comment j'allais faire rentrer les musiques dans le bouquin. parce que l'idée n'était pas de joindre un CD à écouter pendant qu'on lit, en ayant une espèce de bande originale qui court comme ça à la volée, puisque chacun lit à son rythme, mais davantage, de, à certains moments, de venir appuyer la narration, appuyer l'histoire avec quelque chose. Et donc j'ai eu du pot, parce que fin 2011, j'ai découvert les QR codes qui commençaient à peine à apparaître, et là j'ai eu un peu, je ne sais pas dire une révélation, mais je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il y a un truc, une machine qu'on quitte jamais ou rarement, c'est son téléphone, qui est une vraie merveille technologique. Et donc je me suis dit, ben, on va flasher un QR code, parce qu'il n'y a pas de manipulation spécifique, il n'y a pas à aller sur un ordinateur, à saisir une adresse, parce que là, pour le coup, on sort vraiment de l'univers de l'histoire. On flash, on a le média, on ne réfléchit pas. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est que ça reste additionnel, c'est-à-dire qu'on peut rester comme dans un livre avec des mots qui racontent une histoire et faire abstraction des médias. Ce n'est pas indispensable à la compréhension. En plus, je me suis dit, mais bon, quand on lit, souvent l'imaginaire travaille. On imagine visuellement des choses, par exemple. Et des fois, ça peut être gênant qu'on nous les propose à regarder parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Donc, du coup, il peut y avoir un décalage qui n'est pas forcément pertinent. Donc, sur chaque média, quand ça vient, on a indiqué ce que c'est. Une illustration, une musique, un récit audio ou un objet. Et du coup, si le lecteur ne souhaite pas aller voir ou écouter ce qu'on a, on lui propose, ben, il peut rester dans son imaginaire. Et je me suis aperçu aussi souvent, mais vous allez me confirmer ça, que quand on lit, autant l'imaginaire visuel travaille, mais l'imaginaire sonore, il travaille beaucoup moins en général. Donc on est beaucoup plus ouvert à aller écouter ou découvrir des sons ou une musique que peut-être à aller voir une illustration. Donc il y a cette logique combinée, en fait, entre autant que possible le respect de ce qu'est un livre et l'imaginaire du lecteur, mais en même temps la volonté de lui proposer autre chose auquel il peut accéder s'il a envie.
David, je te voyais acquiescer, ce sont des problématiques qu'on retrouve aussi dans la conception de jeux vidéo.
Oui. Enfin,
Le fait que, par exemple, que l'imagination du lecteur vive sa vie indépendamment et qu'on ne puisse pas...
Non, parce qu'on fournit tout aux joueurs quasiment. Enfin, on fournit le visuel, le sonore, le mouvement, il y a quand même quelques trucs qu'on n'a pas. La sensation de toucher, l'odeur, des choses comme ça, évidemment. Mais sinon, oui, c'est assez général, le jeu vidéo. On fournit beaucoup de choses, je pense. Non ?
Après, nous aussi, il faut qu'on fasse attention à ne pas créer des dissonances, mais c'est plutôt au niveau ludonarratif. En fait, il ne faut pas que le personnage fasse des choses que tu ne voudrais pas faire dans le jeu. Quoi.
Oui. Bah, ça, c'est par rapport à l'identification au personnage ou juste à la narration qui n'est pas en accord avec le gameplay. Et ça, c'est une problématique purement jeu vidéo qui n'a pas, qui est autre chose.
On ne s'étendra pas là-dessus.
Bah, sauf si vous voulez.
On a encore le temps pour une ou deux questions. Non, vous savez tout sur le jeu. Oui.
Je voulais savoir, dans les jeux vidéo concernant l'écriture de scénarios, je voulais savoir si vraiment c'était là aussi une spécialité vraiment à part, ou ça reste assez transversal entre les différents, justement entre les différents concepteurs, entre tous ceux qui vont y participer. Ça reste ouvert, ou si c'est vraiment le précaré de...
Alors ça dépend des studios. Dans les petits studios, ça va être justement le game designer qui va peut-être faire le scénario. Dans les gros studios, ça va être des scénaristes spécialisés. Ils seront toujours chapeautés par le directeur créatif qui reste maître de son œuvre. Et il faut savoir que oui, il y a très peu de monde qui font ça. Et c'est un métier assez dur parce qu'en général, durant le développement d'un jeu, il y a beaucoup de parties du jeu qui passent à la trappe en fait. Et du coup, ils doivent en permanence réadapter leur écriture.
Et du coup, c'est aussi un métier qui est pas mal demandé, scénariste pour le jeu vidéo.
Des personnes très qualifiées.
Oui, c'est vrai.
Bon, moi, je crois qu'il reste à remercier nos panélistes et puis vous remercier tous d'être venus, d'avoir assisté à cette table ronde.
Merci.
Merci. Merci.
Je voudrais ajouter que Incarnatis est disponible à la librairie et que vous pouvez y retrouver dans l'heure qui vient, je pense, Marc, qui se fera un plaisir de vous en reparler et de vous le dédicacer. Merci à tous et bonne fin de festival. Donc.